Radio Campus Tours, 99.5 FM.
Vous le savez, chaque soir un invité, et ce soir j'ai le plaisir de recevoir Loïc Moléon, donc directeur...
Exactement, directeur production, voilà.
Bonsoir hein, Loïc.
Bonsoir Mathilde, bonsoir à tous.
Et donc tu viens nous voir ce soir dans Sortez, donc pour nous parler d'une des réalisations donc, de Rectangle Production, donc les Océanautes. Donc Précontinent 3 raconté par les Océanautes, et on va en parler tout de suite bien évidemment dans Sortez. Mais alors, est-ce qu'on pourrait peut-être commencer par présenter Rectangle Production ?
Tout à fait. Alors Rectangle Production, c'est une entreprise qui est sur Tours, donc qui a été créée en Guadeloupe en 2008,
d'accord,
qui avait pour objectif à l'époque de faire de la valorisation sur l'environnement, la nature, le patrimoine guadeloupéen, voilà, l'île dont je suis issu. Et puis, ben voilà, il y a maintenant à peu près 2 ans et demi, 3 ans, on est rentré en Touraine, donc terre que je connaissais quand même pour avoir fait ma terminale, d'ailleurs petite dédicace à Monsieur Dorazio qui m'a donné la passion, on va dire, de l'audiovisuel. Et puis ensuite, voilà, donc on est revenu en Touraine. Et puis, ben les rencontres, avec des gens passionnés surtout, des passionnés de l'audiovisuel, m'ont fait rouvrir mon entreprise. Voilà, pour héberger des projets, toujours plus de projets, toujours de meilleure qualité.
Et donc des projets audiovisuels et mis à part les Océanautes, est-ce qu'on peut parler rapidement des autres projets que tu as avant?
Alors, on a fait quand même pas mal de projets en 2 ans avec Rectangle Production, mais bon, on pourrait catégoriser, disons, 3 pôles dans Rectangle Production. Donc, il y a un pôle audiovisuel qui a pour but de faire de la valorisation d'actions et de savoir-faire, de savoir, on va dire, en Touraine et ailleurs. On a un pôle musique. Qui est en train de se créer avec l'arrivée dans la boîte de Michael Laclé, donc un musicien connu de la scène tourangelle. Lui, son objectif dans Rectangle Production, c'est de créer finalement une sorte de label, je dis bien une sorte de label, et de proposer aux artistes de l'accompagnement artistique, c'est-à-dire travailler sur la renommée artistique, travailler sur... les compositions en soi, la manière de communiquer autour de son art. Et le troisième pôle, finalement, c'est de la communication pure et dure, basique, site internet, affiches, voilà, pour communiquer autour d'un projet, d'une entreprise, pourquoi pas.
D'accord, donc 3 pôles avec 3 spécialités. Tout ça, c'est venu en même temps ou c'est les idées qui s'accumulent et des pôles qui se forment petit à petit ?
À la toute base, Rectangle Production, c'est une société de production audiovisuelle. Donc on fait du programme de télévision, quoi, du journalisme, du documentaire, des reportages, des publicités, des émissions télé. Mais c'est vraiment la rencontre avec des gens passionnés, sérieux, passionnants aussi, qui ont fait de Rectangle ce que Rectangle est aujourd'hui. C'est-à-dire voilà, une structure, une bannière qui regroupe des compétences sur tout ça. Et des gens qui ont envie de faire des projets. Après, le fonctionnement de l'entreprise est un petit peu différent d'une autre entreprise chez Rectangle Production parce que finalement, on appartient à ce qu'on appelle les entreprises libérées, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de hiérarchie pure et dure. À partir du moment où quelqu'un est venu me voir, m'a présenté son projet et m'a prouvé surtout qu'il était capable de prendre la responsabilité de son projet,
de le mener, ouais.
Et ben, il a carte blanche, il a une bannière qui le suit, il a une entreprise, une structure avec tout ce que ça comporte de motivation.
D'accord. Très bien. Et alors, juste pour donner une petite idée à nos auditeurs, Rectangle Production, vous soutenez actuellement et vous allez réaliser le film du groupe Peachy Boys, du coup, qui sont venus la semaine dernière dans Sortez pour parler de leur résidence au Phoenix Event, donc, qui a lieu cette semaine, et notamment de leur concert de vendredi qui sera filmé. Et donc, c'est Rectangle Production qui produira la vidéo et le DVD.
Exactement. Donc rendez-vous vendredi 19h ouverture de la salle, voilà,
pour
aller voir
les
Peachy
Boys. Pour sortir un petit peu les projets sont aussi liés les uns aux autres. Et alors en ce qui concerne maintenant plus les Océanautes, par où commencer ? Est-ce qu'on peut présenter peut-être les Océanautes, donc c'est la mission Précontinent 3 racontée par les Océanautes. Mais alors, est-ce qu'on peut expliquer peut-être aux auditeurs ce qu'est la mission Précontinent 3 rapidement,
parce que c'est... Alors, très rapidement, parce qu'on pourrait y passer des heures, effectivement. La mission Précontinent 3, c'est une mission qui a été mis en place par une institution aujourd'hui qui est la Cousteau Society. Mmh. Bon, là, à l'époque, ça ne s'appelait pas comme ça. Mais finalement, c'est le commandant Cousteau qui a mis en place les premiers tests français. L'idée, c'était c'était des tests de vie sous-marine. C'est-à-dire, l'idée, c'était vraiment de poser une maison sous l'eau pour que les travailleurs sous-marins n'aient pas à remonter à la surface tous les jours, entre chaque manip. Donc ça permet finalement d'éviter les paliers de décompression. Les paliers de décompression en plongée, pour les plongeurs, ils le savent, c'est quelque chose qui est très très long, qui fait perdre beaucoup de temps, beaucoup d'argent quand on rentre dans une logique de productivité. Donc voilà, on avait ce problème-là, et le commandant Cousteau a monté une équipe. C'était que des plongeurs qui plongeaient déjà dans la Calypso, au sein de la Calypso, et a décidé finalement de voir ce que ça allait donner, en fait, la vie sous la mer. Donc il y a eu Précontinent 1, ça a été une maison sous l'eau à peu près 20 mètres. Voilà, c'était un premier test. Après, il y a eu Précontinent 2, donc là, on a augmenté la profondeur et la durée. Et puis Précontinent 3, là, c'était clairement pour le pétrole.
C'était l'objectif, oui.
Voilà, c'est 100 mètres pendant un mois.
C'est ça. Donc oui, tout est bien expliqué dans votre reportage. Au final, vous avez rencontré du coup donc les cinq, ils sont cinq, je crois, hein, les cinq océanautes et qui vont témoigner un petit peu de leur expérience d'un mois en 110 mètres de profondeur. Et alors, comment c'est venu cette idée d'aller rencontrer ces personnes?
Bon alors, c'est vrai que sous l'eau, les océanautes pour la mission Précontinent 3 étaient 6. Ils étaient 6. Bon, il y a pas de souci parce qu'en fait, il y avait Philippe Cousteau, le fils du commandant Cousteau, qui est décédé un petit peu plus tard suite d'un accident de plongée. Et puis il y a eu un autre professeur dont je ne me rappelais plus le nom, j'en suis navré. mais voilà, moi j'ai eu l'occasion d'en rencontrer que 4. Et ces 4-là, on les a interviewés finalement à l'INPP. Dans le cadre finalement de l'anniversaire des 50 ans de la mission Précontinent. Voilà, c'était l'année dernière, ça faisait 50 ans pile, et dans ce cadre-là, il y a une monitrice de plongée, hein, elle n'est pas professionnelle de la plongée, elle ne fait pas du journalisme, elle est juste monitrice de plongée, et elle a eu l'excellente idée de réunir les océanautes pour leur faire parler de leur mission. Et moi, je suis arrivé à ce moment-là, et on les a enregistrés, vidéo et son. Et voilà, on dispose aujourd'hui quand même de 8h30 de rush sur
leur
témoignage à la fois sur Précontinent, mais aussi sur l'aventure Calypso, l'aventure Cousteau. Quoi.
Très bien. Et donc tout ça, c'est condensé, on va dire, en 40 minutes dans le documentaire qu'on retrouve sur Saint-Claude, je crois.
Exactement.
Et que nous aurons l'occasion de diffuser sur Radio Campus donc le 20 février prochain en journée. Et donc, comment ça se fait que vous étiez là-bas personnellement? Qu'est-ce qui vous a amené jusqu'à ce projet?
Alors, moi, je suis plongeur depuis tout gamin. Voilà, c'est mon papa qui m'a mis à la plongée sous-marine et je l'en remercie. Merci beaucoup. comme j'étais en Guadeloupe, voilà, j'ai passé la majeure partie de ma vie en Guadeloupe. Donc, du coup, plonger, c'est un peu quelque chose qui se fait un peu naturellement, on va dire. Voilà, j'ai plongé. Après, j'ai fait de la vidéo sous-marine. Ensuite, j'ai été scaphandrier 2B, voilà, donc professionnel travailleur sous-marin. Et puis maintenant que je suis à Tours, c'est un petit peu plus compliqué de plonger. Voilà, il y a la Loire, mais c'est pas la même température,
pareil,
ni les mêmes profondeurs. Du coup, les océanautes, voilà, ça a été se pencher sur l'histoire de la plongée sous-marine plutôt qu'en, à défaut d'en faire. Ça a été quelque chose quand même de très passionnant et j'espère qu'il y aura une suite. Ça serait pas mal. Quoi.
J'imagine que sur 8 heures de rush, condenser tout en 40 minutes, ça doit être super compliqué de choisir un petit peu parce que...
Très frustrant. Très frustrant parce qu'en finalement, on doit faire un tri draconien quand même. Je dois avoir une bonne dizaine d'anecdotes bien croustillantes racontées par les océanautes et j'ai pas pu les mettre.
Faire une trame, un petit peu dire voilà ce qu'on veut dire pour évidemment, on peut pas tout mettre. Quoi, après, le choix de 40 minutes, c'était pour que ce soit pas trop long ou pourquoi ?
Finalement, quand on fait un documentaire, on définit un angle un sujet, un angle, et on s'y tient, quoi. Après, je me suis pas dit, je vais faire 40 minutes,
oui, non,
ou
non,
je vais faire
mais...
un format de 52 ou de 26. Je me suis affranchi toutes les contraintes de diffusion.
C'est problématique, ouais, après.
Et derrière, voilà, il en sort 40 minutes.
Ok, très bien. Eh bien, on va continuer à parler du documentaire, bien évidemment, d'en sortir, mais je propose qu'on fasse une première pause musicale. Et pour l'occasion, on va écouter donc les Peachy Boys, hein, si tu veux bien.
Très bon choix.
Avec Tango Persan. Et donc, puis bon, on revient tout de suite après d'en sortir pour continuer à parler des océanautes. À tout de suite. En sortez, où je suis donc en compagnie de Loïc Mollion, directeur de production à Rectangle Productions, qui est venu nous parler ce soir de Précontinentaux racontés par les océanautes, donc un documentaire qui retrace un petit peu l'histoire donc, de cette mission avec l'équipage du commandant Cousteau. Et donc à l'instant, on était en train de présenter un petit peu Rectangle Productions dans un premier temps, et puis ensuite de raconter un petit peu ce qu'était la mission Précontinent 3 et d'expliquer un petit peu la démarche que vous aviez à travers ce documentaire. Et d'ailleurs, Pour en revenir justement à cette démarche, est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus à travers ce documentaire, qu'est-ce qui voulait être montré et quelle était réellement la démarche, votre démarche?
En fait, écouter ce qu'ils avaient à raconter sur cette mission, c'est-à-dire ce dont ils se souvenaient, ce qui pour eux était important, l'émotion qu'ils y ont eu, etc. Et la deuxième démarche dans ce documentaire, vu qu'il n'y a pas d'image, c'est pas d'imposer aux gens en fait une vision des choses, c'est de leur suggérer une ambiance, une atmosphère, et qu'ils se fassent leur propre image mentale de la mission. Et bon, ça m'intéresse de créer ça dans la tête des gens, mais j'aimerais bien aussi savoir ce qu'il en ressort. C'est-à-dire que, pour savoir ce qu'il en ressort d'ailleurs, on a mis en place un projet d'illustration participative du documentaire où tout un chacun peut dessiner ou peindre, ou je ne sais pas en fait, faire des photos, faire des sculptures, en fait, tout est bon à prendre. Et l'idée, c'est de peindre leur vision du documentaire et ensuite de nous l'envoyer pour qu'on puisse finalement le coller à la bande audio.
D'accord.
Et ensuite, donc on est plus sur un travail ethnologique, voir ce dont les gens se souviennent 50 ans après et voir comment les gens s'imaginent une mission qu'ils n'ont pas vécue. Voilà.
Et puis c'est vrai qu'après, dans le documentaire, il y a aussi beaucoup de ressentiments aussi de ces personnes qui y ont participé. Et du coup, on se met facilement dans l'ambiance avec tout ce qui est... Vous avez utilisé, je ne sais pas si on peut en parler, mais plusieurs musiques de films aussi à l'intérieur de ce documentaire pour aussi peut-être se mettre dans justement cette ambiance sous-marine.
C'est vrai que la réalité que vivent les scaphandriers sous l'eau est tellement loin de ce qu'on peut connaître à la surface qu'il était difficile juste à partir des dires des océanautes d'offrir aux... J'allais dire aux téléspectateurs, mais on est en radio, aux gens qui écoutent le documentaire, aux auditeurs, voilà, merci. Il était difficile d'offrir aux auditeurs de quoi s'imaginer une ambiance et une atmosphère. Donc finalement, on a utilisé des petites illustrations, des citations de films, de bons films, voilà, parce qu'il y a aussi des mauvais films sur la plongée qui disent n'importe quoi. Là, ce sont des bons films qui sont proches de la réalité sous-marine, voilà. Donc, ça dynamise pas mal le documentaire.
Il y a quelqu'un aussi, une voix off, qui explique par moments, notamment on en parlait, je sais, c'était peut-être hors antenne, mais justement que les conditions étaient compliquées et que voilà, il y a un moment quelqu'un nous explique que voilà, c'est qu'il y a plusieurs points, notamment pour respirer autant de mètres de profondeur, voilà, plusieurs.
C'est vrai que la plongée sous-marine, c'est quelque chose qui est assez poussé en termes de physique, de biologie, par rapport à l'anatomie humaine. Donc finalement, pour bien comprendre les problématiques liées à la plongée, il faut être un petit peu, connaisseur des problématiques que l'on rencontre sous l'eau. Par exemple, quand on passe des niveaux de plongée, dans la plongée loisir, on a beaucoup de cours théoriques. Ça va de pair avec la pratique, mais il y a de plus en plus de théories au fur et à mesure qu'on passe les niveaux, et plus les niveaux sont élevés, plus il y a de théories en fait. Là, il fallait, pour que les auditeurs comprennent ce que les océanautes leur racontaient, redonner quelques petits éléments pour bien comprendre que ce que faisaient les océanautes quand même à leur époque était quelque chose de quand même assez osé.
C'est ça. Tout à fait, et vous vous rendrez compte qu'il y avait beaucoup de prises de risques aussi de leur part pour aller tester des choses comme ça, enfin, avec très peu d'informations finalement, ils étaient pas, enfin, ils découvraient un petit peu en même temps qu'ils le faisaient, quoi.
Alors, de la prise de risque, effectivement, en plongée, on ne peut pas dire que la plongée, ce soit une séance de cinéma, ça
oui,
c'est
non,
clair.
Non, mais... après... D'autant plus quand on ne connaît pas forcément les limites, quoi.
Ah ouais, effectivement. Après, il y a eu de la prise de risque, mais finalement, c'est de la prise de risque maîtrisée. C'est-à-dire que, comme le dit Claude Wesley, ce n'était pas des kamikazes qu'on envoyait. C'était des gens qui avaient déjà des milliers d'heures de plongée derrière eux. C'était des gens qui étaient familiers du milieu marin. Après, oui.
Après, je disais ça dans le sens où, à un moment, il explique que... Ils descendaient de plus en plus bas et remontaient. Et en fait, c'était du test sur le moment, voir jusqu'où ils pouvaient aller vraiment, sans savoir forcément si ça allait fonctionner.
Exactement, voilà. Ce sont des pionniers, quoi. Des explorateurs sous-marins. C'est vraiment de l'exploration, voir quelles sont les limites à l'anatomie humaine par rapport à la pression, en fait.
Et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, j'imagine, dans le domaine de la plongée, on en sait autant. Grâce à des missions comme ça aussi.
Alors effectivement, non seulement dans le domaine de la plongée, mais aussi dans la conquête de l'espace, il y a eu des techniques mises au point lors de la mission Précontinent, qui ont été utilisées après dans la conquête spatiale. Finalement, c'est assez proche. C'est presque le même domaine. À la différence que finalement, le milieu marin est beaucoup plus complexe à aborder que l'espace.
C'est
Voilà.
ça, c'est ce qu'on disait tout
À
à l'heure.
cause de la pression, à cause des gaz qui ne réagissent pas pareil qu'à la surface, etc., etc.
Et alors pour vous, Rectangle Production, du coup, qu'est-ce que vous avez cherché à montrer à travers ce documentaire? Quel angle vous avez choisi d'étudier?
C'est ce que je disais tout à l'heure, l'idée c'était de faire plutôt un travail ethnologique, retourner dans la mémoire des océanautes.
Oui, mais à travers cette mémoire, du coup, j'imagine qu'il y a plein d'autres choses qu'ils ont dû vous raconter.
Ah oui, pour le documentaire même, c'était de revenir un peu sur Précontinent 3, sur justement la notion de pionnier, de pionnier, en fait, le fait d'envoyer enfin, ce sont quand même des gens qui, pour la première fois, qui sont allés vivre à 100 mètres, il n'y en a pas eu
Pendant
avant,
un mois,
et d'ailleurs, il n'y en a pas eu après non plus.
oui.
Ok.
Et d'ailleurs, je ne sais pas si on l'a dit forcément aux auditeurs quand on a recentré, mais la mission Précontinent 3 était aussi très importante, pas que pour la mission Cousteau, c'était pour l'Europe, on va dire, entière, puisque c'était le moment où on allait chercher le pétrole dans les mers européennes, les mers et océans, et du coup, c'était aussi le début, enfin quelque chose de nouveau qu'on devait exploiter.
Effectivement, on s'en rend plus compte aujourd'hui, mais si aujourd'hui on peut avoir autant de pétrole, on va
C'est
dire,
ça.
c'est grâce en partie à des gens
À
comme
ces
les
missions-là, ouais.
océanautes qui sont allés mettre au point des techniques de, pas de forage, mais d'entretien de puits de pétrole sous-marins. Aujourd'hui, je veux dire, la majorité des gisements pétroliers que nous utilisons en France viennent de gisements sous-marins, quoi.
C'est ça. Et à l'époque, pour vous dire, comme comme la colonie s'était terminée, on a dû trouver d'autres solutions pour pouvoir avoir du pétrole et donc aller visiter les fonds marins. Et donc c'est ce qui est un peu expliqué aussi dans le documentaire au début. Et donc on en parlait tout à l'heure. Vous avez donc mis en place, donc c'est ça, l'illustration participative pour le documentaire. Où est-ce qu'on peut retrouver tout ça? Où est-ce qu'on vous envoie les dessins?
Alors, on peut m'envoyer les dessins donc à
Un
mon
dessin ou
adresse
autre
mail.
d'ailleurs.
Mon adresse mail qui est lmoleon@rectangleproduction.fr. Vous pouvez la retrouver sinon sur le site internet de Rectangle Production, donc
C'est
rectangle
ça.
avec un K à la place du C. Alors pourquoi? Ce n'est pas parce qu'on fait des fautes d'orthographe à Rectangle Production, même si, comme tout le monde en a fait. C'est que l'entreprise a été créée en Guadeloupe et qu'en Guadeloupe, les Amérindiens appelaient la Guadeloupe Karukera, d'où le K. Donc Rectangle
D'accord.
Production avec un K. Production au singulier, voilà, et on
On
va
remettra tout ça,
sûrement
nous, sur
relancer,
notre
voilà.
site aussi. Et alors, je viens de te couper, je ne sais pas si tu allais dire autre chose d'intéressant. Mais du coup, jusqu'à quelle date, est-ce qu'il y a vous ferez ça jusqu'à ce que le documentaire soit totalement illustré, ou alors il y a une date butoir?
On n'a pas encore, honnêtement, on n'a pas encore déterminé de date butoir. On va voir comment se déroule un peu quel va être l'accueil du public par rapport au documentaire. Et puis ensuite, voilà, peut-être qu'on aura suffisamment d'illustrations pour illustrer quand même. Il y a 40 minutes de documentaire, donc il en faut quand même pas mal des illustrations.
À moins de
Peut-être
laisser
qu'on
8
les aura
minutes
d'ici un
par.
mois, peut-être qu'on les aura dans 2 mois, mais finalement, tout est bon à prendre parce que si dans 6 mois on nous envoie des dessins, on va pas les refuser. L'idée, c'est d'avoir le retour d'un maximum de gens. Voilà, tout simplement.
Et par la suite, vous le diffuserez sur les internets ou il y aura
Ah oui,
d'autres
bien sûr, bien
supports?
sûr. Ah oui, effectivement. Bonne question. Les illustrations qui vont nous être fournies vont être et sont déjà, voilà, il y en a déjà quelques-unes, elles sont déjà sur la page même où on peut écouter le documentaire. Voilà.
Donc sur le site de Rectangle
D'ailleurs, je
Production.
remercie Simon Avard, je remercie Hélène Viau, je remercie aussi Romain Fragasse,
Toute l'équipe
toute
de
l'équipe
Rectangle
de Rectangle
Production.
Production et tous ceux qui m'ont fait des illustrations, et j'en oublie. Voilà, je les remercie énormément pour ce geste.
Très bien. Eh bien, super. Bah, je rappelle juste que nous, on diffusera donc sur les ondes de Radio Campus pour ceux qui veulent l'entendre. Vous pouvez le retrouver donc sur le site de Rectangle Production ou bien c'est tout d'ailleurs, je crois.
Et pour
puis,
le moment.
Et puis voilà, merci en tout cas d'être venu nous parler de tout ça ce soir dans Sortez. Et puis bah, on vous retrouve rapidement peut-être sur d'autres projets.
Avec grand plaisir.
Et notamment, je fais ma petite transition, attention, avec donc, la semaine prochaine, nous serons Mazette dans Sortez, qui fait aussi partie des projets de Rectangle Production. Et on va tout de suite en écouter un morceau avec The Door. Mais du coup, rapidement, à quel niveau travailler avec Mazette?
Mais en fait, Mazette, on partage le studio. Voilà, le studio est chez Rectangle Production, le studio de
D'accord.
Mazette. Et bah, du coup, on se lève avec sa musique, on se couche avec sa musique, on
Très
l'entend
bien.
Toute la journée. Et puis voilà, on espère faire un clip, peut-être, à l'avenir, avec Mazette. Voilà.
Super, eh ben, c'est parfait. Ça répond très bien à mes questions. Bien, merci encore, Loïc, d'être venu ce soir dans Sortez. Puis, bah,
merci,
très
moi.
Bientôt.
Merci bien.
Maintenant qu'on est là, tu vas peut-être me dire pourquoi on est venu.
Bien sûr.
Because its deadly properties were not fully known.
Radio Campus Tour, 99.5 FM.